Aujourd'hui, nous recevons donc Olivier Houdet. Olivier Houdet est né le 28 juin 1963 à Bruxelles. Il est actuellement professeur de psychologie cognitive à l'Institut de psychologie Université Paris 5 et directeur du laboratoire Cognition et communication CNRS en Sorbonne. Il est membre junior de l'Institut universitaire de France. Ses spécialités, études du développement et du fonctionnement cognitif du jeune enfant à l'adulte dans des domaines du nombre, de la catégorisation et du raisonnement par les méthodes de la psychologie expérimentale et de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. 6 ouvrages aux presses universitaires de France ont été réalisés par Olivier Houdet. Je citerai les principaux. Rationalité, développement et inhibition, 1995. Un ouvrage collectif dirigé par Olivier Houdet qui s'appelle Vocabulaire de sciences cognitives, 1998. Et L'esprit piagétien qui sort d'ici quelques mois, donc en 2000. Voilà, Olivier Houdet, c'est à vous.
Merci. Bonsoir. Donc, le thème de cette 25e leçon de l'Université de tous les savoirs, animée par... si on peut avoir l'image... Donc, animé par un tourbillon de bébé, est le développement de l'intelligence chez l'enfant. Alors, en fait, depuis la leçon inaugurale de François Jacob, le 1er janvier 2000, sur la vie, jusqu'à la leçon d'hier d'Alain Prochian sur le développement embryonnaire, en passant notamment par celle de Jean-Pierre Changeux sur la chimie du cerveau et plusieurs leçons sur la génétique et sur l'évolution, le fil conducteur est de comprendre comment... Progressivement, la matière a pu conduire à la vie et ensuite à l'intelligence ou cognition, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui les fonctions cognitives. Alors, pour figurer ce parcours fabuleux de la matière à l'intelligence, j'ai choisi cette très belle affiche « 1000 cerveaux, 1000 mondes », récemment éditée par le Muséum national d'histoire naturelle, un autre tourbillon. Et il ne sera question donc aujourd'hui que de l'intelligence de l'homme, du bébé à l'adulte, le bébé se trouve là, compte tenu du fait qu'une conférence ultérieure, celle de Jacques Vauclair le 11 février, sera consacrée à l'intelligence des autres animaux. Alors, dans sa conférence inaugurale, François Jacob s'est attaché à montrer que la vie est un processus, une organisation de la matière et qu'elle n'existe pas en tant qu'entité indépendante qu'on pourrait caractériser. On va voir que, de la même façon, les sciences cognitives contemporaines, la psychologie et les neurosciences considèrent que l'intelligence, cette fois, est un processus, une organisation de la matière et de la vie. Alors, dans l'histoire des idées, il n'en a pas toujours été ainsi. Un seul exemple marquant, René Descartes, à la question d'où détenons-nous ce précieux trésor qu'est notre intelligence, on sait que René Descartes répondait avec une évidence qui s'imposait à lui. Dieu a déposé dans notre esprit dès la naissance des idées logico-mathématiques claires et distinctes, noyaux de l'intelligence humaine. Alors, si l'on s'en tient à cette réponse, la conférence est terminée. Et je vous rassure, ce n'est pas le cas. Donc, si l'on ne tient pas à cette réponse, dès lors, 4 siècles plus tard, en ce début 2000, quelle réponse précise la science apporte à cette question, et tout particulièrement la psychologie de l'enfant et du développement. Alors, entre Descartes et nous, 2 événements marquants. Premièrement, l'introduction par Charles Darwin de l'idée d'une évolution progressive de l'intelligence animale et humaine à travers la phylogenèse, donc l'évolution des espèces, où s'imbriquent la matière, la vie et l'esprit, excluant Dieu de l'explication. Et deuxième événement marquant, la reprise de cette idée constructiviste dans l'étude de l'ontogenèse, l'idée selon laquelle l'intelligence se construit petit à petit du bébé à l'adulte, par Jean Piaget en psychologie de l'enfant et également par Jean-Pierre Changeux en neurobiologie avec le darwinisme neural mental. Alors, pour les spécialistes de Piaget qui seraient dans la salle, je n'ai pas dit que les positions biologiques de Piaget étaient darwiniennes. Ce qu'il y a d'extraordinaire chez Piaget, c'est que le concept très général d'intelligence, forme optimale d'adaptation biologique, prend un sens extrêmement précis, concret et dynamique. C'est la construction du réel, ou plus exactement, c'est la façon dont chaque enfant doit reconstruire pour lui le réel dans lequel il est immergé dès la naissance, voire dès la vie embryonnaire. Et le réel, c'est quoi ? C'est l'ensemble des évidences qui structurent notre quotidien d'adulte et qui n'en sont pas ou pas encore pour le bébé et pour l'enfant. Alors, il s'agit d'abord de l'objet, du point de vue de son unité et de sa permanence, du point de vue de son intégration dans des structures spatio-temporelles, donc construction de l'espace et du temps, ainsi que du point de vue des relations qui régissent les objets dans ces structures, le fonctionnement physique de ces objets dans ces structures, la causalité physique. Alors, autrement dit, plus concrètement, si je prends ce crayon, j'ai sciemment pris un gros crayon pour qu'il soit visible de tous, si je prends cet objet, un crayon, et que je le cache partiellement par ma main, il est évident pour vous qu'il continue d'exister du point de vue de son unité. De même, si je le cache complètement derrière moi de sorte qu'il échappe totalement à votre perception immédiate, il reste évident pour vous qu'il continue d'exister, c'est la permanence de l'objet. Je peux aussi déposer cet objet sur la table, introduire un second stylo à sa gauche, structure spatiale, et progressivement, séquence temporelle, pousser le premier stylo avec le second jusqu'à ce qu'il tombe, c'est la causalité physique. Et lorsque l'objet est ainsi construit sous ses multiples aspects par le bébé, que fait le cerveau humain constamment dans le développement et pour le reste de la vie jusqu'à ce soir et en ce moment même pour chacun d'entre nous? Il traite les objets soit quantitativement, c'est le nombre. Pour reprendre l'exemple, on peut quantifier, compter un ensemble de crayons ou de stylos. Donc, constamment, nous traitons les objets soit quantitativement, soit qualitativement. C'est la catégorisation, c'est-à-dire classer les objets selon une qualité, une propriété, par exemple la forme et la couleur. Et lorsque ces traitements quantitatifs et qualitatifs ne portent plus ou pas seulement sur des objets concrets, c'est le raisonnement formel, notamment la logique déductive. Voilà, c'est tout cet édifice, c'est ça, la construction du réel, et c'est à travers ces activités cognitives multiples et emboîtées, objets, nombres, catégorisation et raisonnement, que depuis Piaget, on étudie expérimentalement, du bébé à l'adulte, le développement de l'intelligence. Toutefois, comme on va le voir, les données actuelles conduisent à réviser, parfois radicalement, la théorie de Piaget, même si dans chacun des domaines étudiés, elle reste une référence obligée, ainsi que le cadre général d'études de la construction du réel tel qu'il vient d'être défini. Alors, pour la suite de l'exposé, compte tenu des contraintes de temps, j'ai sélectionné deux exemples qui sont indiqués en rouge sur l'illustration. L'exemple du nombre chez le bébé et l'enfant et l'exemple du raisonnement chez l'adulte. L'objectif est de montrer, à travers ces exemples, que ce qu'il y a de plus intéressant dans le cerveau de l'homme, outre ses mécanismes innés, ses capacités puissantes d'apprentissage, de raisonnement et d'abstraction, c'est que, en fait, c'est une sorte de jungle où les multiples compétences cognitives du bébé, de l'enfant et de l'adulte sont à tout moment susceptibles de se télescoper, d'entrer en compétition en même temps qu'elles se construisent. D'où les erreurs, les biais, les décalages inattendus, les apparentes régressions cognitives que les psychologues ne cessent d'observer dans le développement de l'enfant ainsi que chez l'adulte. Alors, je proposerai qu'il en ressort la nécessité, pour être intelligent, d'un mécanisme de blocage tout aussi puissant que le mécanisme d'acquisition, c'est l'inhibition cognitive. Autrement dit, je pense donc j'inhibe. Alors, du point de vue, dans un point de vue évolutionniste, un tel mécanisme inhibiteur est actuellement considéré comme un élément clé de l'adaptation comportementale et cognitive qui a conduit à l'homme moderne une forme d'algorithme darwinien. Donc, l'une des façons actuelles de chercher à percer le mystère de l'intelligence, et l'éclairage que je vais vous donner ici dans ce bref exposé sera forcément partiel, est d'étudier du bébé à l'adulte le rôle de l'inhibition comme mécanisme de sélection. Et l'activation-inhibition étant une logique tant neurale que cognitive, ces recherches utilisent des techniques qui relèvent à la fois de la biologie, l'imagerie cérébrale fonctionnelle, lorsqu'on peut l'appliquer, et de la psychologie. En conclusion de cette introduction générale, vous aurez remarqué qu'en filigrane de cette illustration et de la précédente, vous devez suivre, voilà. En filigrane de cette illustration et de la précédente figure une cathédrale. Alors, il s'agit de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, où l'on peut observer ce que les architectes appellent l'interaction des forces. Il s'agit, cette cathédrale symbolise évidemment ici l'intelligence, au sens de la construction du réel, mais aussi le fait que, quand le bâtiment est là, les architectes et les ouvriers sont partis. Or, l'originalité de la psychologie de l'enfant et de la psychologie du développement, c'est précisément de démonter la cathédrale. Autrement dit, de chercher à comprendre les mécanismes d'interaction des forces en suivant au plus près le chantier, c'est-à-dire l'intelligence en construction chez l'enfant et au cours de l'apprentissage chez l'adulte. Donc, pour la suite, démontons la cathédrale. D'abord pour l'exemple du nombre chez le bébé et l'enfant, ensuite pour l'exemple du raisonnement logique chez l'adulte. Alors, ainsi que je l'indiquais tout à l'heure, dans chacun des domaines étudiés, la référence obligée, princeps, est la théorie piagétienne. C'est le cas pour l'exemple du nombre. La question que s'est posée Piaget, comment dans cette construction du réel émerge le nombre et quand l'enfant peut-il intégrer le nombre dans son traitement cognitif des objets? Alors, pour chaque question de ce type que s'est posée Piaget, il a eu l'ingéniosité expérimentale de mettre au point des situations très simples, très ludiques pour les enfants, mise au point qui s'est faite en collaboration avec ses collègues de l'Université de Genève. Et dans le cadre du nombre, il s'agit d'une épreuve très célèbre qui a fait le tour du monde, qui est l'épreuve de conservation du nombre. Alors, on place l'enfant devant une table. De l'autre côté de la table se trouve l'adulte psychologue expérimentateur et chacun a un tas de jetons de couleurs différentes. On va considérer que la couleur de l'adulte sont les jetons rouges, ceux de l'enfant sont les jetons bleus. Alors, la situation se déroule de la façon suivante. L'adulte dispose sur la table un alignement de jetons dont vous voyez qu'ils sont disposés à espace régulier et demande à l'enfant avec ses propres jetons de faire pareil de manière à ce qu'il y en ait autant dans les deux alignements, donc que le nombre soit conservé. Alors il se fait que le jeune enfant d'école maternelle d'environ 4 ans fait ça, c'est-à-dire qu'il suit strictement le cadre visio-spatial de l'alignement, donc il respecte strictement la longueur, mais il transgresse le nombre, ce qui faisait dire à Piaget que c'est le niveau de l'intuition simple, intuition au sens perceptif. L'enfant se laisse guider par le cadre visio-spatial, par son intuition perceptive, et n'intègre donc pas le nombre dans son traitement cognitif du réel, ici des jetons. Ensuite, on a un niveau intermédiaire qui s'appelle l'intuition articulée, où l'enfant réalise qui est appelée par Piaget une correspondance terme à terme, c'est-à-dire que sous chaque jeton de l'expérimentateur, il dispose un jeton. Donc dans ce cas-là, le nombre est conservé, mais les variables sont confondues, puisque la longueur est également respectée. Donc, le psychologue pervers, au sens où il veut en savoir un peu plus sur le fond du raisonnement de l'enfant, pousse le dernier jeton, et l'enfant fait ça. C'est-à-dire qu'il reste prisonnier de cette correspondance à terme à terme et de son rythme dans le cadre visio-spatial de la longueur, donc il respecte bien la longueur, mais il transgresse le nombre, puisqu'évidemment, il y a plus de jetons dans son alignement que dans celui de l'adulte. Enfin, au dernier niveau, vers 7 ans, Piaget appelait le niveau logique, opératoire, l'égalité est acceptée par l'enfant, même en cas d'alignement de longueurs différentes. Il considère que les alignements sont identiques du point de vue du nombre. Donc, un développement assez laborieux du nombre, avec une très longue période pendant l'école maternelle où l'enfant est intuitif, se laisse guider par la perception. Et c'est seulement par le critère de réussite de cette épreuve que Piaget considère que le nombre est acquis. Alors, le temps étant limité et les recherches sur le nombre sont très nombreuses, je vais vous sélectionner d'autres recherches, certaines menées aux États-Unis, d'autres dans notre laboratoire, pour créer un contraste très fort entre ces données classiques de Piaget et les données nouvelles sur le nombre. Alors, dans les recherches actuelles, une autre technique tout à fait différente de celle de Piaget, mais tout aussi ingénieuse, est utilisée, c'est la réaction aux événements impossibles. Alors, cette technique repose sur le principe de la magie. Si nous, adultes, et on va revenir à la question introduite tout à l'heure, des évidences qui sont des évidences pour l'adulte, des principes de construction du réel, et qui ne le sont pas pour l'enfant. Le principe de la magie est le suivant, si on assiste à un spectacle de magie et que l'on applaudit, donc que l'on est satisfait et que les tours ont été bien joués, c'est qu'on est conscient que des propriétés du réel ont été transgressées. Et ces propriétés, ce sont les propriétés évoquées en introduction, par exemple la permanence de l'objet. Une colombe introduite dans un chapeau qui ensuite n'y est plus, si on considère qu'il y a de la magie, c'est qu'on considère qu'une propriété du réel, la permanence de l'objet, était transgressée. Pareil pour la causalité, le nombre, etc. Ce qui veut donc dire que si on est conscient qu'une propriété du réel était transgressée, préalablement spectacle de magie, on possédait cette propriété du réel. On avait donc construit ce principe cognitif, par exemple la permanence de l'objet. D'où l'idée d'utiliser pour diagnostiquer les compétences intellectuelles et cognitives du bébé et de l'enfant, la magie, hein, qui est un moyen beaucoup plus fin, beaucoup plus provoquant, en lui présentant des événements possibles et impossibles. On peut donc appliquer cette méthodologie à tous les éléments clés de la construction du réel, et c'est ce qui a été fait, par exemple, pour le nombre. Alors, la recherche d'origine est faite par un chercheur de l'Université d'Arizona qui s'appelle Karen Wynn. Je ne sais pas si c'est visible, ou alors je le ferai avec les babards. On présente à l'enfant, il s'agit ici de bébés de 4-5 mois, je vais d'abord vous parler de l'âge. On a vu que chez Piaget, il fallait attendre environ 6-7 ans pour que le nombre soit intégré dans le traitement des objets. Alors, Karen Wynn, donc chercheur américain, pose une question très provocante par rapport à tout ce que l'on savait sur le développement numérique depuis Piaget. Le bébé de 4-5 mois est-il capable de traiter numériquement les objets? Par exemple, est-il capable de faire des opérations arithmétiques élémentaires de type 1 plus 1 égale 2 et 2 moins 1 égale 1? Pour ce faire, on va lui présenter des événements numériques possibles et impossibles, c'est-à-dire qui respectent ou non le résultat de ces opérations. Le bébé est donc placé face à un théâtre et on va observer ses réactions visuelles. L'idée étant que classiquement, on évalue les capacités numériques à travers le langage oral ou le langage écrit. Et on présuppose que le bébé, ne disposant pas du langage, ne maîtrise donc pas le nombre et n'a pas de capacité numérique. Alors, en fait, c'est une limitation du psychologue, de ses méthodes, plus qu'une limitation nécessaire du bébé. D'où l'idée de tester les capacités intellectuelles du bébé à travers ce qu'il sait faire, c'est-à-dire à travers la perception visuelle et son regard qui peut être extrêmement précis, extrêmement structurant. Donc, ce qui va être étudié ici, c'est la réaction à la magie, la réaction aux événements possibles ou impossibles à travers le temps de fixation visuelle. C'est-à-dire que lorsque le bébé est surpris, s'il l'est, par un événement impossible, il va regarder plus longtemps. C'est un principe général selon lequel, quand on voit quelque chose de nouveau, de surprenant, on l'explore plus longtemps que quelque chose de connu ou d'attendu. Le bébé, donc, placé face à ce théâtre, il voit qu'on introduit un Mickey. Ensuite, un écran se lève et cache le Mickey. Vous notez qu'à ce point de la procédure, ça présuppose déjà un autre principe de construction du réel, qui est la permanence de l'objet, c'est-à-dire la permanence du Mickey derrière l'écran en rotation. Ensuite, une main dans l'espace qui reste entre l'écran et le bord du théâtre introduit un second Mickey, donc l'équivalent de l'opération 1 plus 1. Et la main repart vide. Après ça, deux possibilités selon la condition expérimentale. Soit la séquence se termine de la façon suivante, l'écran s'abaisse et laisse apparaître deux Mickey. C'est donc un événement numériquement possible. Ou alors, une autre fin à la séquence, l'écran s'abaisse et ne laisse apparaître qu'un seul Mickey, événement numériquement impossible. Donc dans le premier cas, l'événement possible 1 plus 1 égale 2, le nombre, le résultat attendu par le bébé est conservé. Dans l'autre cas, 1 plus 1 égale 1, c'est un résultat inattendu qui ne respecte pas l'opération arithmétique réalisée sous ses yeux. Et vous voyez en dessous que exactement le complémentaire est fait pour la soustraction. Initialement, il y a deux Mickey. L'écran se lève, cache les deux Mickey. Une main vide apparaît, retire un Mickey. Événement possible, il en reste 1. 2 moins 1 égale 1. Événement impossible, il en reste 2. Et ce que Wynne a démontré dans une recherche publiée dans Nature et qui a fait beaucoup de bruit, c'est que dès 4-5 mois, les bébés sont surpris par les événements numériques impossibles, c'est-à-dire qu'ils fixent plus longtemps les événements numériques impossibles. Et là où le résultat est très fort, c'est qu'on ne peut pas dire c'est parce qu'il y a un Mickey ou parce qu'il y a deux Mickey, le bébé a telle ou telle préférence pour observer un ou plusieurs Mickey, puisque la logique arithmétique étant là, vous constatez que ce qui est l'événement possible pour la première opération est l'événement impossible pour la seconde, et inversement. Donc, c'est une gestion non aléatoire du regard qui scrute de façon extrêmement précise et qui manifeste une surprise visuelle lorsque le nombre est transgressé. Alors, vous voyez qu'un contraste très fort entre ces compétences numériques très précoces, insoupçonné à la suite des travaux de Piaget chez le bébé 4-5 mois, et le fait que, comme on l'a vu précédemment, jusqu'à 6-7 ans, le bébé qui se développe pour devenir un jeune enfant est tout à fait intuitif, perceptif et incapable d'appliquer le nombre dans les situations piagétiennes. Il y a donc un décalage, une apparente régression cognitive, et c'est ce type de paradoxe, de mystère qu'on essaye de trancher actuellement en psychologie du développement de l'intelligence. Alors, un point de détail pour introduire la recherche suivante qu'on a réalisée chez l'enfant plus âgé, c'est que vous pourriez faire l'objection suivante, c'est de dire « oui, mais qu'est-ce qui nous assure qu'il s'agit bien d'un calcul précis ?» C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous assure que le bébé a bien fait une inférence cognitive de type 1 Mickey plus 1 Mickey, ça doit faire 2 Mickey, et pas un traitement plus numérique, mais plus perceptif, global, holistique, dont sont capables les animaux, par exemple. Ce traitement perceptif global pourrait être qu'il y a un objet, et le bébé s'attend à ce qu'il y ait plus d'un objet, parce qu'il a pu détecter comme régularité dans l'environnement que quand il y a un objet, qu'on en ajoute un second, ça ne peut en aucun cas rester à l'identique. Il y a une opération, un acte, c'est de l'intelligence physique, ça ne peut pas rester à l'identique. Or, dans ce cas-là, il y a une opération, une manipulation, et ça reste à l'identique. Il pourrait simplement s'agir de ça comme surprise, sans qu'il y ait un réel calcul de type 1 plus 1 égale 2. Donc un traitement global de type 1 plus 1, ça doit faire plus que 1, mais ça peut être 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça un traitement global et holistique sur la chaîne numérique. Alors, le contrôle qu'il fallait faire, et qu'a fait Wynne, c'est de refaire l'expérience en prenant comme événement numérique impossible non seulement 1, mais dans une autre condition, 3. Parce que si le bébé réagit à 3 comme étant impossible, ça veut dire qu'il a bien fait une inférence numérique, et on ne peut pas faire plus précis que ça sur la chaîne numérique, de type 1 plus 1 égale 2, ni 1, ni 3. Et il a été donc, ce contrôle a marché, il a été trouvé que le bébé de 4-5 mois réagit également à l'événement impossible 1 plus 1 égale 3, et c'est le fait, donc, qu'au même âge, à 4-5 mois, il considère à la fois que 1 plus 1 égale 2 est possible, que 1 plus 1 égale 1 est impossible, et que 1 plus 1 égale 3 est impossible, donc il y a synchronisme de réaction aux événements impossibles 1 plus 1 égale 1 et 1 plus 1 égale 3, qui était considéré comme la preuve de compétences numériques assez précises, analytiques, dès 4-5 mois, alors qu'on nous décrivait, selon la théorie piagétienne, une émergence très tardive chez l'enfant de 6-7 ans de capacités numériques aussi précises et indépendantes de la perception. Alors on peut dire que les choses sont quand même difficilement comparables, même s'il y a un paradoxe fort. C'est que dans l'expérience que je viens de vous présenter des Mickey, l'expérience porte sur des petits nombres. On a vu que chez Piaget, l'expérience portait sur des grands nombres. Chez le bébé, ses capacités numériques sont testées au niveau de la perception visuelle, alors que chez Piaget, ses capacités numériques étaient testées à travers le langage. Donc, on a réalisé dans notre laboratoire une expérience qui permettait de rendre les choses plus comparables. Donc, version européenne, on a remplacé les Mickey par des babars et on a fait la chose suivante. On a donc pris des enfants à partir de 2 ans, un groupe de 2 à 3 ans et de 3 à 4 ans, en crèche et en école maternelle. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le jeune enfant va être l'héritier cognitif intellectuel du bébé compétent qu'il était, c'est-à-dire est-ce que dès l'instant où il aura à 2 ans le langage articulé, il pourra transmettre, en reprenant exactement le même dispositif, est-ce qu'il pourra transmettre ses capacités numériques, est-ce qu'on va retrouver ce synchronisme des réactions aux événements impossibles 1 plus 1 égale 1 et 1 plus 1 égale 3 qui était le critère d'un calcul précis, ou alors est-ce qu'il va y avoir une désorganisation. Et en plus, comparons ce qui est comparable, c'est-à-dire que pour les mêmes nombres et les mêmes objets, on va tester les enfants de la façon dont Piaget les testait, c'est-à-dire en faisant une situation de jugement numérique qui induit une interférence entre le nombre et la longueur. Donc, nous avons réalisé cette expérience. Et donc exactement selon le même principe, l'addition avec les babars qui présentent soit comme événement possible 2 ou comme événement impossible 1, soit comme événement possible 2 et comme événement impossible 3. Et ensuite, l'enfant est amené à juger pour ces deux alignements si il y a égalité numérique entre les deux ou pas. Les résultats obtenus sont les suivants. Bon, alors, je vous les décris, vous savez, regardez, les dessins, ce n'est pas très lisible. Alors, vous avez le groupe des 2 ans et le groupe des 3 ans. Les histogrammes blancs correspondent aux performances numériques dans l'épreuve de magie, donc de réaction aux événements impossibles, et les histogrammes rayés correspondent aux performances dans l'épreuve de type Piaget qui introduit une interférence entre le nombre et la longueur. Vous constatez donc premièrement et globalement que chez l'enfant d'école maternelle, pendant toute cette période étudiée par Piaget, on a un décalage très fort, très net, entre les performances dans l'épreuve piagétienne qui confirment ce qu'avait observé Piaget, qui sont tout à fait médiocres, c'est-à-dire l'enfant n'utilise pas le nombre dans cette situation, et les performances dans la situation de réaction aux événements numériques impossibles, qui sont globalement très bonnes. On a également cherché à dissocier si l'enfant réagissait correctement ou non à l'événement impossible 1 plus 1 égale 1 et 1 plus 1 égale 3, pour la raison évoquée tout à l'heure du critère d'un calcul précis chez le bébé. Et, surprise, on constate qu'à l'âge de 2 ans, au-dessus, vous avez la réaction à l'événement impossible 1 plus 1 égale 1 et ici, réaction à l'événement impossible 1 plus 1 égale 3. À l'âge de 2 ans, on a une différence statistiquement significative entre les performances. Les enfants ne réagissent plus à l'événement impossible 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire qu'ils vous disent, ah ben non, là ça va. Là ça va parce que tu as mis plein de babards, il y en a plusieurs, ça va. Il y en avait qu'un, tu en as ajouté, il y en a plusieurs, ça va. Donc, alors ça, c'est un phénomène sur lequel je voudrais attirer votre attention dans le développement. Ça veut dire qu'à travers le langage, dans son activité de traitement numérique du réel, l'enfant entre 2 ans et 3 ans est moins compétent que ne l'était le bébé de 4-5 mois quand on l'interrogeait par le regard et par la perception visuelle. C'est-à-dire qu'on ne retrouve plus à cet âge-là le synchronisme de réaction aux événements impossibles 1 plus 1 égale 1 et 1 plus 1 égale 3. Il y a donc une discontinuité, une restructuration des compétences numériques à travers le langage. On peut évoquer plusieurs facteurs. La difficulté d'acquisition du vocabulaire du nombre, des étiquettes linguistiques de type 1, 2, 3, etc., pour lesquelles il y a un certain flou à cet âge pour l'enfant. Et aussi une interférence que peut créer le langage, la distinction entre singulier et pluriel. On sait que le nombre dans le langage oppose singulier et pluriel, c'est-à-dire 1 à tout le reste. Ce qui veut dire que 2, 3 sont, d'un certain point de vue, du point de vue du nombre linguistique, confondus dans la même catégorie. Donc autant d'éléments qui vont un peu contre les idées reçues, parce qu'on dit souvent le langage, c'est une forme de symbolisation, ça aide à la construction du nombre. C'est sans doute vrai pour une part, mais dans ce cas-ci, ça montre que ça interfère et qu'il y a une période où l'enfant de crèche est moins compétent que ne l'était le bébé de 4-5 mois au niveau visuel. Ensuite, on observe qu'à l'âge de 3 ans, l'enfant a reconstruit ses capacités numériques et peut à nouveau faire ce calcul précis au niveau de traitement linguistique et des arguments linguistiques qu'il donne. On a à nouveau réussite aux deux types d'événements impossibles. Néanmoins, vous constatez toujours, bien que ce traitement numérique analytique précis soit réélaboré au niveau du langage, vous constatez toujours un échec massif dans la situation piagétienne, qui est tout à fait frappant quand on expérimente avec les enfants, c'est-à-dire qu'à 3 ans, ils parviennent à nouveau à manipuler parfaitement ce dispositif, à vous dire que là, c'est possible en argumentant numériquement, qu'ici, c'est impossible, que là, c'est impossible, que là, c'est possible, et immédiatement placé après dans cette situation, les enfants vous disent « Ah ben non, là, il y en a plus parce que c'est plus long. Et là, ben, il y en a moins. Il y en a moins, c'est plus serré. » Donc l'enfant, c'est une première illustration de ce que je disais tout à l'heure, des décalages tout à fait inattendus, des apparentes régressions cognitives d'une tâche à l'autre chez les enfants du même âge. Ils parviennent à utiliser le nombre, et cette fois on est bien à nombres égaux et à objets identiques, dans cette situation de réaction aux événements impossibles, et ils ne le font plus après quand est introduite une interférence visio-spatiale, c'est-à-dire la longueur. Et il est vrai qu'il existe une heuristique qu'a pu construire l'enfant par détection de régularité dans l'environnement et que nous utilisons toujours, nous tous adultes, qui est la stratégie, le schème en mémoire, longueur égale nombre. Si vous êtes dans une pièce, disons, rectangulaire, que vous devez quantifier très rapidement le nombre de chaises qui se trouvent dans cette pièce, vous comptez le nombre de chaises derrière un alignement de table, vous multipliez par le nombre d'alignements et vous avez une bonne approximation du nombre de chaises. Donc, pareil, un autre exemple, l'enfant qui est en voiture avec ses parents sur une route bordée d'arbres va plus ou moins détecter comme régularité, sans faire un calcul précis, qu'à longueur égale, le nombre d'arbres sera identique. Donc, la stratégie longueur égale nombre, qui est une stratégie, une heuristique en mémoire, c'est-à-dire une stratégie qu'on utilise très souvent, très rapidement, très efficace, mais qui ne marche pas toujours. Et dans le cas précis de la situation piagétienne, elle ne marche pas. Donc l'hypothèse qu'on peut faire, et c'est là qu'intervient le rôle de l'inhibition évoqué tout à l'heure, que l'enfant semble bien utiliser la stratégie numérique dans cette situation de réaction aux événements impossibles, et que s'il n'utilise pas au même âge, pour les mêmes nombres et les mêmes objets, dans la situation qui introduit une interférence visio-spatiale, c'est parce qu'être intelligent, là, c'est inhiber, c'est sélectionner, c'est d'être capable d'inhiber une stratégie concurrente, longueur égale nombre, qui entre en compétition et qui court-circuite, qui télescope la capacité numérique que l'enfant semble posséder déjà. Alors vous comprenez que ça change tout pour le diagnostic intellectuel, puisque dans le développement de l'intelligence selon Piaget, les stades étaient précisément déterminés par l'échec ou la réussite à ces épreuves, et que lorsqu'un enfant est en situation d'échec, qui répond « il y en a plus ici parce que c'est plus long », on considère qu'il n'a pas construit le nombre, hein, qu'il n'utilise pas ses capacités numériques pour traiter le réel. On voit par cet exemple qu'il peut très bien avoir élaboré le nombre, l'utiliser dans son traitement des objets, mais être à nouveau tout à fait intuitif et perceptif dans la situation de type Piaget. Alors, Une autre façon de tester ce rôle de l'inhibition grâce à des procédures informatisées, à l'analyse du temps de réaction, donc ce qu'on appelle la chronométrie mentale, c'est qu'on va prendre des enfants cette fois qui réussissent les tâches de type Piaget. Donc dans un premier écran d'ordinateur qui est en phase 2, on leur présente deux alignements de jetons, l'un plus long, l'autre plus court, pour recréer l'interférence visio-spatiale. L'enfant a deux boutons de réponse, il doit dire si en dessous et au-dessus, c'est pareil ou pas pareil du point de vue du nombre. Il doit répondre vite et bien. Donc, on prend des enfants, par exemple, de l'âge de 8 ans, qui peuvent réussir la tâche, et donc, ils répondent que là, c'est pareil. Alors, pour répondre que c'est pareil, selon l'analyse précédente, il faut être capable d'inhiber la stratégie qui entre en compétition, hein, qu'impulsivement, on a au moins pendant quelques dizaines de millisecondes envie de produire, de dire qu'il y en a plus là parce que c'est plus long. Et juste après, quand l'enfant a répondu, apparaît un autre écran où précisément la stratégie longueur égale nombre est efficace, marche, coïncide avec la bonne réponse. Puisqu'ici, vous constatez qu'effectivement, là où c'est plus long, il y en a plus. Quand on fait ce type d'expérience et qu'on enregistre le temps de réaction de l'enfant, c'est-à-dire le temps qu'il met entre la stimulation et le moment où il appuie sur le bouton sa réponse, donc le temps de traitement cognitif et en l'occurrence numérique, on constate qu'il y a un phénomène qu'on appelle l'amorçage négatif, c'est-à-dire que le temps de traitement est plus long ici, il met plus de temps pour appuyer sur le bouton que si vous présentiez cet écran-là en premier lieu. C'est-à-dire que si vous le présentiez sans qu'il ait fallu avant résoudre la tâche de type Piaget avec inhibition. Donc tout se passe comme si il faut bien, dans cette situation-là, inhiber pour réussir, pour être intelligent, la stratégie longueur égale nombre. Et la preuve de l'existence et de l'efficacité de ce processus d'inhibition, c'est que la stratégie qui était bloquée à ce moment-là met un peu plus de temps pour être activée, donc débloquée, juste après. Et ça, c'est avec un niveau de résolution temporelle très fin, hein, puisque la différence qui est indiquée ici entre les deux conditions, la condition test, celle-là, et la condition contrôle, où le second écran est présenté en premier, est de 158 millisecondes. Donc c'est en dessous de la seconde, c'est à des échelles de temps extrêmement brèves que l'on mesure, ce que ne pouvait pas faire Piaget n'ayant pas ses moyens techniques, que l'on mesure s'il s'agit d'activation d'une stratégie ou d'inhibition d'une stratégie en compétition qui est impliquée. Voilà, je pense vous avoir donné un éclairage pour le premier exemple relatif au nombre, alors qui montre donc à la fois par rapport aux notions introduites tout à l'heure, qu'il y a sans doute des mécanismes extrêmement précoces. Certains auteurs considèrent qu'ils sont innés ou qu'ils reposent sur des bases préprogrammées. En tout cas, des processus extrêmement précoces d'apprentissage et de raisonnement qui expliquent que dès 4-5 mois, donc après 4-5 mois de vie, où l'on pense souvent que le bébé n'est plongé que dans ses relations affectives, nutritionnelles, il est déjà capable de traitements numériques extrêmement précis, que par le biais de la perception visuelle, il peut déjà être surpris par des opérations arithmétiques inadéquates. Donc il y a bien des processus précoces, voire innés, extrêmement puissants d'apprentissage, de raisonnement et ensuite d'abstraction, mais que l'essentiel pour le reste du développement, c'est de comprendre pourquoi il y a ces paradoxes, pourquoi il y a ces décalages, ces régressions, et qu'avec ces compétences extrêmement précises, le même bébé observé plusieurs années plus tard sera tout à fait intuitif, perceptif, et sera, dans ce cas-là, non pas parce qu'il serait incapable d'activer la stratégie, mais par défaut d'inhibition d'autres stratégies qui entrent en compétition dans cette espèce de jungle qu'est l'esprit humain. Et peut-être, en tout cas c'est ce qu'on essaye d'approcher, que c'est là l'essentiel de l'intelligence et du développement intellectuel. Bien sûr, construire les stratégies, mais être capable de flexibilité cognitive, c'est-à-dire de passer d'une stratégie à l'autre, d'inhiber la bonne stratégie au bon moment pour activer notre stratégie, et précisément celle qui est pertinente et qu'il faut activer dans telle situation, et celle qu'il faut inhiber juste après. Et c'est donc ce jeu d'activation et d'inhibition, et cette flexibilité, je veux dire cognitive ou métacognitive, puisqu'il faut réfléchir sur ses propres stratégies, qui serait au cœur de l'intelligence. Alors, ce que je veux vous montrer avec le deuxième exemple, c'est que cela reste éminemment vrai pour nous, pour l'adulte, qui sommes, par rapport à ces questions cognitives, en fait, des grands enfants, et qu'on peut se retrouver dans des problèmes qui sont aussi complexes pour nous que ces problèmes de traitement numérique ne le sont pour l'enfant. On peut se retrouver dans des situations d'inhibition inefficace, tout à fait perceptif, intuitif, en étant incapable d'appliquer des stratégies dont, vous le verrez, on conviendra tous qu'on les possède et qu'on les a construites. Alors, c'est ce que je voudrais vous montrer avec l'exemple du raisonnement. Alors, une fois de plus, dans ce domaine, la référence pour le développement du raisonnement de la théorie piagétienne qui a décrit le fait que chez l'adolescent et chez l'adulte est établi le raisonnement logique, formel, relativement stable et applicable dans un grand nombre de situations. Alors, ce que montrent les travaux les plus récents, c'est que les choses ne se passent pas comme ça, que dans des tâches de logique déductive élémentaire, la grande majorité des adultes, plus de 90% des adultes, présentent des stratégies perceptives, des biais de raisonnement, donc des stratégies tout à fait erronées qui s'écartent complètement de la logique que l'on attendrait d'eux. Alors, par exemple, le type de tâche qui est utilisé, qui est représenté sur cet écran, je vais vous lire la règle dont je pense qu'elle ne doit pas être lisible. Donc, ce sont des tâches de raisonnement déductif. Raisonnement déductif qui porte sur des règles conditionnelles, donc des règles de type si, alors. Donc, une règle conditionnelle est une partie antécédent, si, et une partie conséquent, alors. Il est écrit au-dessus de l'écran, s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Au départ de l'expérience, les deux cases que vous voyez là sont vides. Le sujet a à sa disposition toute une série de formes géométriques, des carrés, des cercles, des losanges, bleu, jaune, rouge, vert. Il dispose d'une souris, il doit sélectionner deux formes, en mettre une à gauche et une à droite, de manière à rendre la règle fausse. C'est donc une tâche de réfutation de règles conditionnelles. Il faut créer une configuration, une forme à gauche, une forme à droite, qui aille contre la règle. C'est une tâche donc, de logique déductive extrêmement simple, élémentaire. On sait tous, au moins implicitement, que pour réussir ce type de tâche, il faut raisonner en termes donc, d'antécédents et de conséquents, de valeurs de vérité, et que le seul cas de figure susceptible de rendre une règle conditionnelle fausse est une situation antécédent vrai, conséquent faux. Alors, si vous n'en êtes pas convaincu. Si on prend l'exemple de la règle, il est interdit de fumer. Donc, si on est dans cet amphithéâtre, il est interdit de fumer. Tout le monde sait très bien que le seul cas de figure qui peut rendre la règle fausse, c'est antécédent vrai, être dans l'amphithéâtre, et conséquent faux, fumer. Tous les autres cas de figure où l'antécédent serait faux, c'est-à-dire on ne serait pas dans l'amphithéâtre, ne peuvent pas rendre cette règle fausse. Or, pour la règle énoncée tout à l'heure, s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite, plus de 90% des adultes, y compris avec des formations académiques très élevées, excepté les logiciens, 90% des adultes vous répondent carré rouge, cercle jaune. J'ai accepté les logiciens parce qu'on l'a fait chez des mathématiciens qui présentent aussi ce biais de raisonnement. Donc 90% des adultes, si on avait eu le temps, je vous aurais suggéré de sortir vos crayons de couleur et de faire l'épreuve et vous... Je pense que vous auriez constaté le même résultat, répondre carré rouge, cercle jaune. Je rappelle que la règle, c'est s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Donc pour répondre correctement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Antécédent vrai. C'est-à-dire qu'il faut respecter l'antécédent, ne pas mettre de carré rouge. Donc vous pouvez mettre n'importe quoi, mais il faut aller contre la perception du carré rouge, n'importe quoi sauf le carré rouge, par exemple un carré bleu. Donc là, on est dans un cas de figure où la règle est applicable, il n'y a pas de carré rouge. Ensuite, vous devez rendre le conséquent faux, puisqu'il faut réfuter la règle. Donc vous devez mettre, comme le conséquent dit qu'un cercle jaune, tout ce que vous voulez, sauf un cercle jaune. Par exemple, un losange vert. Et donc c'est une situation tout à fait critique qui, comme chez l'enfant, permet de tester notre capacité à aller contre la perception. Et pour être intelligent, il faut activer une stratégie, inhiber la perception et activer une stratégie logique selon la table de vérité telle qu'elle vient d'être évoquée. Alors, ce que je vais vous montrer à partir de cet exemple, c'est à la fois à partir de techniques de psychologie et de biologie, d'imagerie cérébrale fonctionnelle, un micro-développement, c'est-à-dire ce qui se passe dans le cerveau adulte et ce qui se passe du point de vue des opérations cognitives durant un micro-développement, c'est-à-dire durant un apprentissage, où on va regarder ce qui se passe avant l'apprentissage, donc ce qu'on va appeler le pré-test, du point de vue de la stratégie erronée, du biais de raisonnement, de l'erreur que je viens de vous décrire, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'adulte à ce moment-là, et qu'est-ce qui se passe après apprentissage, lorsqu'il est capable d'inhiber cette stratégie perceptive pour activer une stratégie logique. Alors, donc, la première stratégie, il faut que je vous précise qu'elle a été appelée dans la littérature par le psychologue anglais Jonathan Evans, le biais d'appariement perceptif. Pourquoi ? Parce qu'on donne comme réponse les deux éléments qui sont cités dans la règle. On apparie, on reprend carré rouge, cercle jaune qui sont cités dans la règle. Comme il y a une négation quelque part, on se dit, bon, ça doit rendre la règle fausse, et on considère que c'est la réponse adéquate. On a vu que la réponse logique, c'était tout le contraire. Donc, ce qu'on peut faire pour essayer de faire bouger les choses du point de vue cognitif et dans le cerveau, par rapport à cette tâche, c'est réaliser un apprentissage expérimental chez l'adulte. Et comme on présuppose que ce qui fait défaut à l'adulte, ce n'est pas la logique, puisque cette logique élémentaire, on la maîtrise tous, on va lui faire un apprentissage à l'inhibition du biais d'appariement perceptif. Ce type d'apprentissage s'appelle un apprentissage métacognitif, parce qu'on ne va pas apprendre la stratégie sur la même tâche, sinon ce serait simplement une instruction des bonnes et des mauvaises réponses. Donc on réalise l'apprentissage sur une autre tâche de logique, mais qui est exactement, je n'ai pas le temps de la décrire, qui est exactement la même structure formelle, donc qui nécessite la table de vérité, le raisonnement antécédent conséquent, et qui a aussi l'intérêt de déclencher chez les sujets exactement la même erreur, qui est une erreur donc, d'appariement perceptif, où le sujet reprend les deux éléments perceptivement présents dans la règle pour répondre. Et donc ce qu'on va regarder, c'est ce qui se passe avant et après apprentissage dans les performances psychologiques et au niveau cérébral. Alors, du point de vue des échelles de temps, en introduction, j'ai parlé de la phylogenèse, l'évolution des espèces. On a vu des exemples dans l'ontogenèse, le développement du bébé à l'adulte. On a vu pour une tranche d'âge donnée du bébé à 7 ans, le développement du nombre. Dans ce cas-ci, c'est une échelle temporelle encore plus réduite, c'est une microgenèse, c'est-à-dire pendant une journée, entre le matin, ensuite on fait l'apprentissage, et puis après l'apprentissage, l'après-midi, on redonne la même tâche au sujet, on va voir ce qui a pu bouger dans ces mécanismes cognitifs. Et c'est en faisant des microgenèses comme celle-là, avec les nouvelles techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle, qu'on peut enregistrer en temps réel ce qui se passe dans le cerveau, et ça nous informe en retour sur ce que peuvent être les processus de développement au niveau de l'ontogenèse. Alors, du point de vue des performances cognitives, on réalise aussi, dans ce type d'expérience, vous imaginez qu'on réalise toute une série de contrôles, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs conditions d'apprentissage. On fait également un apprentissage à la logique. C'est-à-dire que peut-être que ce qui manque au sujet, c'est réellement la logique. Donc on fait aussi un apprentissage à la logique pour voir si ça va le faire devenir logique dans une tâche identique. Les résultats indiquent que là, vous avez les biais de raisonnement, donc les erreurs dans le groupe contrôle. Ici, les erreurs dans le groupe dit expérimental, c'est-à-dire celui qui va avoir l'apprentissage à l'inhibition du biais, vous constatez qu'en pré-test, c'est-à-dire la première fois où ils ont à résoudre la tâche, la grande majorité des sujets présentent une erreur de logique qui est l'appariement perceptif. Très peu de sujets réussissent spontanément. Ensuite, on réalise l'apprentissage sur une autre tâche, dont vous voyez que le matériel présente une structure inhibitrice qui va apprendre à inhiber l'appariement perceptif, à activer la réponse logique, l'inhibition étant symbolisée par ce filtre, ces hachures et l'activation par la zone centrale. Après apprentissage, on observe uniquement dans le groupe expérimental un effet d'apprentissage, c'est-à-dire le passage de biais d'erreur de logique à des réponses logiques et pas dans le groupe contrôle. Alors, premier enseignement, c'est que si vous donnez de la logique au sujet, c'est comme si sa tête était en quelque sorte pleine de logique, on ajoute de la logique, ça déborde. Donc, quand le sujet est en situation d'échec, donc il fait une erreur de logique dans une tâche de logique, ça ne veut pas dire que c'est la logique qui lui manque. C'est lourd d'enseignement aussi pour l'enfant et on voit que c'est cohérent avec ce qu'on a pu voir comme échec dans certaines tâches de nombre. Donc, ce qui semble lui manquer, puisque seul l'apprentissage a l'inhibition, donc au jeu d'activation d'inhibition des stratégies est efficace, ce qui semble lui manquer, c'est ça. Alors, on regarde ensuite, enfin, simultanément, ce qui se passe du point de vue des activations cérébrales. Donc, cette recherche a été réalisée en collaboration avec le groupe d'imagerie neurofonctionnelle de Caen, dirigé par le professeur Bernard Mazoyer. Donc, c'est une recherche Oudé, Tsurio, Mazoyer, Nathalie et Bernard Mazoyer. À cette occasion, je vous informe que Bernard Mazoyer fera une conférence le 3 février sur les techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle et le rapport pour l'étude des fonctions cognitives supérieures. Donc, je recommande tout particulièrement cette conférence parce que c'est l'avenir de la psychologie. Donc, vous avez à gauche ce qui se passe au niveau du pré-test, c'est-à-dire quand le sujet dans la tâche, fait l'erreur de logique, donc fait la stratégie d'appariement perceptif. À droite, vous avez le cerveau des mêmes sujets soumis exactement à la même tâche. Donc, les stimulations sont les mêmes et la réponse motrice est la même, soumis exactement à la même tâche, simplement quand ils ont changé de stratégie, quand ils ont inhibé la stratégie perceptive et pour activer la stratégie logique. Alors, le premier résultat très surprenant, c'est que vous observez une bascule, un shifting complet de la partie postérieure du cerveau, qui est connue, on va le détailler un tout petit peu, comme la partie assurant le traitement perceptif, notamment les voies de la perception visuelle, à la partie antérieure du cerveau, le cortex préfrontal, connu pour être impliqué dans des activités plus intégrées, plus abstraites, logiques notamment, et surtout dans le contrôle de la conduite, dans la capacité d'inhibition et d'activation, donc de contrôle du comportement. Alors, si l'on regarde plus en détail ce qui se passe quand le sujet fait l'erreur de logique, on constate, par exemple, donc je vous ai à chaque fois indiqué les activations cérébrales, un rappel de la tâche et une interprétation de la fonction associée. On sait par exemple que cette région est impliquée, on le sait par d'autres expériences, dans la lecture des mots, de forme et de couleur. Ces images sont obtenues par soustraction. C'est-à-dire que là, vous avez l'image du pré-test, obtenu par soustraction par rapport au post-test. Donc, c'est ce qu'il y a de spécifique dans le cerveau quand le sujet a une stratégie de réponse perceptive qui n'est pas la réponse logique. Et il est tout à fait intéressant de constater qu'on a une région impliquée dans la lecture des mots de forme et de couleur, alors que le biais, l'erreur d'appariement perceptif est précisément une focalisation à travers la lecture qui est silencieuse sur les mots de forme et de couleur cités dans la règle. Par ailleurs, on a également, lors de ce pré-test, comme vous le voyez là, ce qu'on appelle ici la voie ventrale dans le cerveau, dans la partie postérieure, et là, la voie dorsale, et on sait, là, il faut faire une rotation mentale parce que la coupe du cerveau est dans l'autre sens, on sait que la voie ventrale est impliquée dans le traitement des formes et des couleurs, cette fois-ci la perception visuelle, dans le cliché précédent, c'était la lecture des mots écrits, dans la perception visuelle des formes et des couleurs, et on retrouve précisément ces deux petites régions que vous voyez là, qui sont connues, démontrées, pour être impliquées dans le traitement des formes et le traitement des couleurs. Il est tout à fait extraordinaire de trouver précisément ces activations, à la fois la focalisation, on pourrait dire, lexicale, sémantique, sur les mots de forme de couleur à travers le réseau de la lecture, et la focalisation visuelle sur les formes de couleurs présentes à l'écran, la voie ventrale, alors même que le sujet applique la stratégie d'appariement perceptif. Et vous constatez que dans l'autre cas de figure, c'est-à-dire les mêmes sujets soumis à la même tâche après un apprentissage à l'inhibition, donc quand ils ont connu un micro-développement, activent tout un réseau préfrontal, dont on peut voir que c'est un réseau préfrontal essentiellement gauche, et pour lequel je vais vous donner quelques détails. Par exemple, cette région précise qui est le gyrus préfrontal moyen dans sa partie antéro-inférieure est une région dont il était trouvé récemment par Konishi, une équipe au Japon à l'université de Tokyo, qu'elle est activée lorsque le sujet résout la tâche de Wisconsin, qui est une tâche qui était décrite dans la conférence de Jean-Pierre Changeux. Je ne vais pas y revenir, simplement le principe général. C'est une tâche de tri de cartes, de catégorisation, et le sujet est amené à trier, à catégoriser des cartes selon des critères différents. Il peut s'agir de la forme, de la couleur ou du nombre. Et toute la difficulté de cette tâche, c'est qu'à un moment donné, le sujet doit changer de critère. C'est-à-dire qu'après avoir catégorisé un certain nombre de fois les cartes du point de vue de la forme, il doit subitement les catégoriser du point de vue de la couleur. Il doit donc inhiber le critère de tri antérieur pour activer le nouveau critère de catégorisation. Et on sait depuis longtemps en neuropsychologie clinique, que les sujets qui ont une lésion du cortex préfrontal échouent dans ce type de tâche. Et il a été trouvé donc récemment par l'équipe de Japonais que chez le sujet normal qui résout cette tâche, lorsqu'il doit inhiber un critère de catégorisation pour en activer un nouveau, il active précisément cette région qu'on retrouve, non pas en pré-test, mais en post-test, alors même qu'au niveau comportemental, au niveau psychologique, le sujet inhibe également une première stratégie, l'appariement perceptif, pour activer la stratégie logique. Donc on semble toucher là aux bases cérébrales d'un mécanisme assez central d'inhibition, d'activation, de flexibilité cognitive qui serait au cœur de l'intelligence. Ce type de tâche étant considéré comme relevant des fonctions cognitives supérieures. Un détail que je n'ai pas explicité sur l'illustration, vous avez aussi cette activation juste à côté, qui est le cortex préfrontal inférieur et qui correspond à l'aire de Broca. Alors, vous savez peut-être que l'aire de Broca est l'aire connue depuis très longtemps comme étant impliquée dans la production du langage. Or, c'est une tâche où le sujet ne parle pas, il résout cette tâche logique de façon silencieuse. Et on a une activation de l'aire de Broca. Alors, l'interprétation faite, et d'autres auteurs font actuellement des interprétations comparables, c'est qu'on aurait là des traces matérielles de ce qu'on appelle le langage régulateur, qui, au cours du développement de l'enfant, comme l'a montré Vygotsky, est un langage extériorisé. Quand l'enfant a des problèmes, doit réfléchir sur la stratégie qu'il doit appliquer, il parle, il régule sa conduite par le langage. On sait qu'au cours du développement de l'enfant, ce langage s'intériorise et ça devient notre langage régulateur intériorisé. Et ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est qu'on trouve cette activation de Broca dans une tâche où le sujet ne parle pas, précisément en post-test, quand le sujet doit en quelque sorte réguler sa conduite, décider d'inhiber une première stratégie pour en activer une autre. Et vous savez que pendant très longtemps, les philosophes ont précisément défini l'intelligence comme étant la pensée, et la pensée comme étant un espèce de langage intérieur. Alors, un dernier point concernant ce qui se passe dans le cerveau, donc après apprentissage à l'inhibition de la première stratégie, c'est qu'on a également une activation ici à droite, et cette activation à droite correspond à une région qui est à cheval sur ce qu'on appelle le cortex préfrontal ventromédian et le cortex donc préfrontal ventromédian et singulaire, qui est une région identifiée par le neuropsychologue Damasio comme étant impliquée dans les relations entre émotion et raisonnement. On sait que lorsque les sujets ont une lésion cérébrale au niveau de cette région, ils perdent les facultés d'utiliser leurs émotions, d'utiliser les motivations pour raisonner. C'est-à-dire, il est question dans ce cas-là d'émotions cognitives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire émotion cognitive dans cette situation? C'est que le sujet passe dans une caméra où on enregistre l'activité de son cerveau alors qu'il résout une tâche de logique, c'est le pré-test. On le sort de la caméra, on lui fait un apprentissage. Ensuite, on le remet dans la caméra une seconde fois, on lui redonne la même épreuve. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous avez des émotions. Vous vous dites, tiens, on me fait refaire la même épreuve. Entre les deux, j'ai un apprentissage sur une autre tâche. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je dois faire la même chose? Peut-être ai-je fait une erreur? Donc, c'est de ce type d'émotions-là qu'il est question. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on ne les observe pas en pré-test, parce qu'en pré-test, le sujet croit qu'il répond correctement. Ça fait penser à l'expression d'un psychologue genevois qui s'appelait Papert, qui disait « même quand il se trompe, l'enfant répond toujours juste à la question qu'il se pose ». Et c'est vrai, et c'est également vrai pour l'adulte. En pré-test, pour l'adulte, s'il se pose la question en termes d'appariement perceptif, il répond juste à la question qu'il se pose. Donc il n'a pas de problème émotionnel, de choix de stratégie, d'être adapté à la tâche. En revanche, lorsqu'il y a une cassure de cette certitude et qui a une nécessité de sélectionner, d'inhiber, d'activer, on constate ces régions impliquées dans le registre émotionnel activées qui, elles, se trouvent à droite. Alors, pour faire un lien entre, j'aurais bientôt terminé, pour faire un lien entre ce dernier résultat et l'exemple du nombre tout à l'heure, on sait depuis un certain nombre d'années, par les expériences de Jacques Meller, que pour cette capacité numérique qui, comme on l'a vu dans la situation de Piaget, n'apparaît que très tardivement, vers 6-7 ans, si vous remplacez les jetons par des bonbons et que la question devient non plus de savoir où il y en a le plus dans des alignements de jetons, mais de manger les bonbons, donc je vous parle de ça maintenant pour l'aspect registre émotionnel, motivationnel qui sous-tend le raisonnement, s'il s'agit de manger les bonbons, mais dès 2 ans, l'enfant ne se trompe plus. C'est considérable, c'est tout le stade décrit par Piaget comme étant intuitif, perceptif. Donc, l'hypothèse que j'avancerai ici, c'est que ces mécanismes, donc à la fois émotionnels, dont on peut voir les bases cérébrales chez l'adulte, un détail que j'aurais dû vous dire, c'est qu'on ne peut pas actuellement en France, compte tenu de la loi Hurier, appliquer cette technique d'imagerie cérébrale chez l'enfant. C'est la raison pour laquelle on fait du micro-développement chez l'adulte, donc étudier les processus intellectuels à travers l'apprentissage. Mais ça nous conduit à tirer des enseignements pour l'enfant. Donc, le fait de trouver précisément à la fois ces mécanismes d'activation et d'inhibition, donc, comme dans la tâche de Visconsin rappelée tout à l'heure. Ce langage régulateur par le biais d'air de Broca, les composantes émotionnelles qui sous-tendent ce jeu d'inhibition et d'activation, nous conduisent à penser que très souvent, dans le développement de l'enfant, à chaque nouveau domaine qu'il doit, construire dans cette cathédrale de la construction du réel évoquée tout à l'heure, l'objet, le nombre, la catégorisation, le raisonnement, à chaque fois il y a des compétitions nouvelles entre stratégies, disons perceptives, et stratégies plus rationnelles, et que ce qui doit vraisemblablement à chaque fois réélaborer au niveau cérébral et cognitif, ce sont des espèces de boucles postéro-antérieures qui sont décrites dans les modèles adultes, une dynamique cérébrale, ce serait ça, la flexibilité intellectuelle. Et déjà actuellement, un certain nombre de modèles de psychologie de l'enfant décrivent différents stades par ce type de boucles, de cycles postérieurs-antérieurs qui doivent se réétablir pour gérer les registres plus perceptifs, plus intuitifs et plus logiques dans chaque nouveau domaine qui se construit. Alors, vous vous souvenez du tourbillon matière-vie-intelligence du début, où l'on s'est particulièrement intéressé au développement de l'intelligence chez l'homme, mais ce que l'on sait, c'est simplement un indicateur, mais très intéressant, c'est que ce que nous avons observé dans un micro-développement, donc un temps très bref, avant et apprentissage, changement de stratégie cognitive, inhibition d'une stratégie pour l'autre, et un shifting complet de la partie perceptive postérieure à la partie préfrontale lorsque le sujet inhibe une stratégie pour activer la logique, est à mettre en rapport avec ce qui a pu être observé dans la phylogenèse, que Changeux appelait dans sa conférence une extraordinaire explosion à travers l'évolution de certaines régions du cerveau. Vous avez ici la taille du cortex préfrontal chez divers mammifères, où on voit précisément que par rapport, là les cerveaux sont dans l'autre sens, que par rapport à la partie postérieure, par rapport au cerveau perceptif, progressivement jusqu'à l'homme, le cortex préfrontal a pris une importance de plus en plus grande. Alors, ça ne veut pas dire que toute l'intelligence est dans le cortex préfrontal. C'est au contraire dans la dynamique cérébrale, dans ces boucles postérieures, antérieures, qui se réappliquent à des domaines nouveaux de construction du réel, que vraisemblablement, l'essentiel se passe. Voilà, donc j'ai essayé de vous décrire à la fois avec des concepts généraux et des exemples concrets, parce que je pense que ça vous intéresse de savoir ce qu'on fait réellement dans nos laboratoires, ce qu'on présente comme situation expérimentale aux enfants, à la fois ce en quoi les données actuelles sont radicalement différentes de la théorie piagétienne, c'est-à-dire qu'il y a des compétences beaucoup plus précoces qu'on l'imaginait, et qu'en même temps, ça ne veut pas dire que le bébé est super intelligent pour le reste de sa vie, qu'il y a par la suite des décalages, des régressions, et que selon les situations, il faut activer ses compétences, mais très souvent aussi être capable de sélection et d'inhibition. Voilà, je vous remercie.
Nous allons passer aux questions. Il y a deux personnes avec des micros dans la salle pour répondre aux questions. Il y a une autre personne avec le micro ? Où est l'autre personne ? Ah voilà, ça arrive. Ok. Là, ici. Voilà.
Quand vous avez montré les tests d'acquisition du raisonnement chez l'adulte, vous avez montré qu'après un entraînement, on voyait une différence significative entre les résultats du groupe témoin et du groupe qui avait suivi l'entraînement. Alors, je voudrais vous poser une question à propos des tests d'intelligence. Si on se réfère à l'exemple que vous avez donné, cela voudrait dire qu'on peut s'entraîner à réussir les tests d'intelligence. Et si on peut s'entraîner à réussir les tests d'intelligence, sont-ils toujours des tests?
Ben, je répondrai, mais c'est peut-être un peu facile, qu'il faudrait distinguer les pré-tests d'intelligence et les post-tests d'intelligence. Moi, je crois qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose de figé. Si vous voulez. Certains d'entre vous s'attendaient peut-être, vu le thème de la conférence, à ce que je parle des tests d'intelligence. Alors, bien sûr, il y a des tas de choses intéressantes et c'est essentiel pour la psychologie appliquée, pour la psychométrie cognitive, mais en fait, par ces situations expérimentales, ce qu'on fait, c'est qu'on crée, on invente des nouveaux tests, des nouveaux moyens de diagnostic, et l'idée n'est pas que l'intelligence est figée et va être quantifiée à un moment donné pour toujours par un certain type de test. Donc au contraire, par l'apprentissage, on veut montrer combien l'intelligence est dynamique, mais elle n'est pas dynamique n'importe comment. On pourrait penser qu'en apprenant la logique, un sujet qui échoue dans une tâche de logique, il allait devenir logique. Ce n'est pas ça. À travers l'apprentissage, on a un outil de test, en quelque sorte de diagnostic, parce que dans l'apprentissage, vous opérationnalisez un processus intellectuel. Vous dites, s'il échoue, c'est parce qu'il lui manque de la logique, donc je fais un apprentissage à la logique. Un autre dira, s'il échoue, c'est pas la logique le problème, c'est un problème d'inhibition, de sélection entre deux stratégies, je fais un apprentissage à l'inhibition. Et puis à travers les effets contrastés en pré-test et en post-test, ce serait ça l'aspect test ici en quelque sorte, en pré-test et en post-test, c'est l'apprentissage qui marche, et on ne sait pas lequel au départ, qui nous renseigne en fait sur le processus qui manquait, qui était essentiel par rapport à l'erreur. Et quand on peut, en plus des performances, avoir les données d'imagerie cérébrale fonctionnelle, c'est-à-dire voir quel type d'apprentissage change radicalement les réseaux cérébraux impliqués, on a un diagnostic assez fort, parce que je peux vous dire, pour information, qu'on a refait également l'apprentissage à la logique avec les techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle, et on n'a pas cette bascule postérieure, antérieure. Ça, c'est quand même quelque chose qui va contre l'intuition. On pense tous, et c'est ça quand même le principe de l'école et de l'éducation, que si un sujet échoue dans une tâche de logique, on va lui faire une leçon de logique. Alors, c'est vrai sans doute au départ, dans un certain nombre de cas, mais après, il faut faire des tas d'autres choses. Il ne faut pas seulement apprendre à activer à l'école, mais aussi apprendre à inhiber. Donc, voilà, je répondrai à votre question en disant que faut une évaluation plus dynamique de l'intelligence, et dans ce cas-là, faire pas des tests, seulement des tests d'intelligence, mais des pré-tests d'intelligence et des post-tests d'intelligence, avec entre les deux des formes d'apprentissage.
Est-ce qu'on peut comparer l'adulte et l'enfant pour les problèmes d'apprentissage? Dans la mesure où, entre 3 mois et 7 ans, chez un enfant, il y a une modification considérable du cerveau, une maturation en particulier qui concerne le lobe frontal, alors que chez l'adulte, l'apprentissage ne tient absolument pas compte d'une modification du cerveau. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques notions là-dessus?
Là, quand même, je suis d'accord en termes de maturation. Là, vous raisonnez en termes de maturation. Donc, il est vrai, pour informer tout le monde, que le cortex préfrontal dont on a parlé ici connaît... Bon, d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de maturation, c'est la partie du cerveau dans l'ontogenèse, donc dans le développement du bébé, dont la maturation est la plus tardive. Donc, c'est seulement vers la fin de la première année, on a des tâches psychologiques pour le tester, qu'il semblerait que, même si le développement cérébral continue après, que le cortex frontal a atteint un niveau de maturation comparable aux aires plus postérieures et perceptives qui, elles, sont matures plus précocement. Mais donc là, je vous suis. Là, je suis pas d'accord avec vous, et c'est précisément ce qui est intéressant de pouvoir faire aujourd'hui en imagerie cérébrale fonctionnelle à travers l'apprentissage, c'est que là, vous pouvez pas dire que les choses bougent pas dans le cerveau de l'adulte quand il apprend. Vous avez une bascule postérieure antérieure énorme, s'agissant toutes d'aires matures. Donc, je pense que vous avez raison qu'il faut chez l'enfant. Si on faisait des expériences comparables chez l'enfant. Savoir exactement à quel âge on situe et quelles sont les contraintes de maturation des différentes régions impliquées. Mais en plus, l'autre phénomène que peut montrer ceci, c'est que même quand les régions sont matures, tout n'est pas construit. Et bien au contraire, il faut encore être capable de créer, ce qui est représenté ici, des boucles, des cycles au cours du développement de gestion des différents réseaux cérébraux selon les exigences de la tâche. Alors, on pourra faire, pour aller dans votre sens, des découvertes encore bien plus extraordinaires quand précisément on pourra utiliser ce type de technique, si on le peut un jour et si c'est souhaitable du point de vue éthique, chez l'enfant pendant des périodes critiques et clés d'explosion et d'apprentissage. Mais c'est rassurant pour l'adulte. parce que ça montre quand même qu'on peut radicalement changer de point de vue et qu'il y a bien une flexibilité cognitive, intellectuelle possible, d'inhibition et d'activation. Après, un apprentissage, c'est quand même très bref, expérimental. Pour ce qui est important, c'est que c'est le même sujet comparé à lui-même dans la même tâche. Ce qu'on fait en fait en psychologie du développement, c'est pour ça que je vais parler de cet exemple chez l'adulte, et c'est de la psychologie du développement, parce que quand on dit que l'enfant de 4 ans échoue dans une tâche de type Piaget, conservation du nombre, et qu'ensuite il réussit à 7-8 ans, c'est bien à travers les âges, le même sujet comparé à lui-même dans la même tâche. Et c'est ce qu'on refait de façon micro.
Oui, bonsoir. Moi j'ai 3 questions. Une petite question de détail. Quelle question vous posez à l'enfant? L'enfant
dans quelle épreuve?
Dans 3-4 ans. La première, la
seconde. Enfin, oui, d'accord, hein, j'aurais dû le dire.
Quelle question vous posez à l'enfant?
Oui.
La deuxième question, est-ce que l'apprentissage chez l'adulte est durable? C'est-à-dire, est-ce que vous faites des post-tests au bout de quelques mois, par exemple? Et puis la troisième, est-ce que vous avez testé ça sur des schizophrènes?
C'est 3 questions auxquelles j'ai beaucoup de réponses, mais j'ai essayé d'être bref, parce que j'en profite pour dire tout ce que j'ai oublié, peu le temps de dire pendant l'exposé. Là, j'ai effectivement omis de le dire, et c'est une erreur de ma part, il faut toujours préciser les consignes. Donc, chez le bébé, vous avez compris que comme c'est son temps de fixation visuelle, il n'y a pas de consigne, hein, puisqu'on n'utilise pas le langage. Donc, simplement, on s'attache à ce que l'attention du bébé soit bien focalisée sur le théâtre, hein, c'est contrôlé, de manière à calculer son temps de fixation visuelle moyen pour les événements possibles et pour les événements impossibles. Puis, on fait des traitements statistiques. Chez l'enfant, la consigne est la suivante. On a fait un sondage, un ajustement linguistique préalable. À chaque fois donc, que l'écran s'abaisse et qu'il voit les vêtements numériques, on pensait d'abord utiliser des mots comme, bon, prenons le plus évident, il doit dire si c'est possible, si c'est impossible, si c'est magique, si c'est pas magique, si c'est bizarre, si c'est pas bizarre. Comme on voulait travailler avec des enfants très jeunes, c'est-à-dire juste au moment où émerge le langage articulé vers 2 ans, pour voir s'ils allaient transmettre ces compétences numériques, on a dû prendre le lexique le plus simple, et après des tests, c'est il doit dire si ça va ou si ça va pas. D'accord ? Mais il doit argumenter. Avec les mots qui sont les siens, il doit argumenter. Donc la réponse est considérée comme correcte, et on a conservé le caractère relatif à travers l'explication linguistique qu'il y avait dans le temps de fixation visuelle. La réponse est considérée comme correcte que si l'enfant dit que ça va pour l'événement impossible et pourquoi, et que ça ne va pas pour l'événement impossible et pourquoi. Donc, c'est la transcription linguistique du test visuel. Alors, votre deuxième question pour l'apprentissage, qui est une excellente question. Alors, il y a plusieurs réponses. La première, donc j'ai oublié de signaler que ces recherches donc, de psychologie sur l'apprentissage expérimental et l'inhibition ont été réalisées avec Sylvain Moutier dans le cadre de sa thèse de doctorat. Donc, avec Sylvain Moutier, on a testé différents post-tests. Le premier résultat qui ressort, c'est que c'est un effet très éphémère. C'est-à-dire qu'après peu de temps, on a des résultats contradictoires, mais en tout cas, un certain nombre de données indiquent que ce n'est pas un effet solide. Après une semaine, les sujets refont l'erreur. Ils refont l'apprentissage logique. Alors, plusieurs interprétations à ça. Si précisément, on leur a fait une instruction, c'est-à-dire un apprentissage à la logique, ils l'auraient comprise et ils auraient vraisemblablement acquis la logique une fois pour toutes. Comme cet apprentissage est un apprentissage métacognitif et en fait attentionnel. On apprend à gérer ces processus d'attention en mémoire, à inhiber certaines stratégies, à activer d'autres stratégies. Ce carré-là symbolise ce que les psychologues appellent la mémoire de travail, c'est-à-dire le morceau de mémoire qu'on utilise ici et maintenant pour résoudre une tâche. Tous les psychologues savent très bien que les processus de sélection en mémoire de travail, c'est sur des durées très brèves. Donc, il est cohérent que, comme ce n'est pas un apprentissage d'acquisition de connaissances, hein, mais de sélection de stratégies par rapport à une stratégie très tentante qui est l'appareillement perceptif, après une semaine, ce n'est pas stable. C'est-à-dire que le sujet refait l'erreur de logique. Alors là où votre question est très intéressante, c'est qu'on peut se dire, puisque à présent on a les techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle, qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau après une semaine? Il faut savoir qu'on a aussi très souvent des phénomènes de ce type chez l'enfant. C'est-à-dire des périodes de développement où l'enfant réussit, et puis, peu de temps après, il échoue à nouveau. On ne sait pas pourquoi. Si réellement il avait acquis une connaissance nouvelle, si c'était ça le processus d'acquisition, on peut penser qu'il l'aurait acquise. On peut penser qu'il y a des moments clés du développement, et c'est ce que j'ai voulu vous dire, où les connaissances sont acquises, mais après, c'est tout un jeu d'inhibition et d'activation qui doit se mettre en place selon les situations, selon les exigences de la tâche. Donc, ce qui serait intéressant de savoir, c'est si, quand on fait le post-test différé une semaine après et qu'on enregistre à nouveau l'activité du cerveau et que le sujet refait l'erreur de logique, s'il y a une espèce de réversibilité cérébrale, la boucle dans l'autre sens, qui correspondrait à la réversibilité comportementale et cognitive. On n'en sait rien. Peut-être, hein, une réversibilité exacte, on en retrouvera au réseau précédent, ou alors pas tout à fait. Il resterait une trace de cette première boucle. Alors ça, on peut le faire grâce à de nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, où on peut, ce qu'on ne pouvait pas faire dans avec la caméra à positon, où on peut examiner le sujet plusieurs fois dans le temps, et donc on compte reprendre cette expérience pour voir le maintien ou non de l'effet de l'apprentissage dans le temps et ce qui va se passer au niveau cérébral. Donc c'est la suite du projet de collaboration avec l'équipe du professeur Mazoyer. Enfin, chez les schizophrènes, on lance également avec le professeur Sonia Dolfus de Caen un protocole expérimental chez les schizophrènes qui reprend exactement ce type de situation. Alors, pourquoi les schizophrènes? Vous auriez pu invoquer d'autres pathologies. Si le processus d'inhibition est aussi cité actuellement, parce que c'est ce qu'on appelle une fonction exécutive, comment on contrôle l'exécution de ces conduites, très vraisemblablement, comme j'ai voulu vous le montrer, c'est un processus essentiel dans le développement intellectuel qu'on a trop longtemps ignoré. On a pensé que le développement, c'est simplement de l'acquisition, de l'accumulation de connaissances. Or, c'est tout autant de la sélection, de l'inhibition, de l'activation. Et dans beaucoup de pathologies, comme la schizophrénie, ça semble être ce qui dysfonctionne en premier. On parle aussi de troubles de ce type chez les enfants autistes. On sait que les patients appelés frontaux qui ont des lésions du cortex préfrontal ont des troubles d'inhibition, par exemple dans la tâche de Wisconsin que je vous évoquais tout à l'heure. Mais je vous dirais que tout ça, ça fait un peu désordre. Parce que si toutes ces pathologies relèvent de même dysfonctionnement, qu'est-ce qui fait qu'elles sont différentes? Un patient frontal, c'est quand même différent d'un schizophrène et c'est différent d'un enfant autiste. Donc, partant de là, les recherches actuelles essayent précisément, même s'il y a des processus communs qui dysfonctionnent, de voir dans le détail quels sont les sous-processus, la typologie qui dysfonctionne. Donc, on reprend ce paradigme chez les schizophrènes pour voir, là, au niveau cérébral et cognitif, qu'est-ce qu'ils auront comme type de dysfonctionnement, peut-être plus subtil que le même paradigme appliqué dans une autre pathologie.
Une question là-haut. Ce sera la dernière question.
J'ai cru comprendre, à la fin, vous avez dit quelque chose de très rapidement à propos de bonbons.
Oui.
Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit?
Allez-y.
C'est ma première question, parce que vous avez l'air de... J'ai compris que le test de Piaget, effectué avec des bonbons, marchait beaucoup mieux.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, au lieu de le réussir à 7 ans...
À 2 ans.
À 2 ans, était réussi. Alors, la conclusion qui me paraît assez évidente, à la suite d'un événement comme celui-ci, c'est que les tests de Piaget sont des tests, neutres. L'enfant n'est pas intéressé. Par contre, à partir du moment où on intéresse la personne en question, il va il va travailler beaucoup plus fort.
Oui.
Donc, ce qui voudrait dire que, comme l'histoire des babars ou des Mickey, je me demande si on avait remplacé les Mickey et les babars par, je ne sais pas, moi...
Là, il n'y a pas besoin, hein, parce qu'ils réussissent précocement. Mais...
Des petits pois ou n'importe quoi, est-ce que ça aurait pas été différent? Donc, j'ai l'impression qu'il est très, très difficile de séparer l'intelligence, ce qu'on appelle le QI, du QI émotionnel. C'est-à-dire que les deux marchent ensemble, et que si on ne mesure que l'un des deux, on n'aura jamais la vérité de la personne. Quelle est l'intelligence réelle de la personne? Et à l'école, c'est pareil. La plupart des enfants, si on ne les intéresse pas, n'apprendront pas vite. Par contre, s'ils sont intéressés, ils apprendront beaucoup plus vite. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer...
Ouais, si vous voulez, ce que vous dites est exact. C'est pas la seule chose ni la seule vérité. En tout cas, vous avez un élément qui va dans le sens de ce que vous dites. Dans ce qu'on a observé, hein, après l'apprentissage, lorsque le sujet est capable d'éviter l'erreur, il se fait que sont mobilisées des régions cérébrales connues pour être impliquées dans les aspects émotionnels. Mais, si vous voulez, il ne faut pas faire une classification des tâches, de type dire les tâches de Piaget, c'est neutre, il n'y a pas d'aspect émotionnel, on les met au grenier des accessoires inutiles, on ne les utilise plus. On ne veut utiliser que des cas, que des tâches très motivantes où on peut réellement observer les compétences cognitives. Ces tâches très motivantes, comme le système de la magie et de réaction à l'événement impossible, indépendamment que ce soit des babars ou tout ce que vous voulez d'encore plus motivant que des babars, c'est précisément le but, c'est qu'on met le sujet dans un contexte optimal pour faire le diagnostic le plus exact de ce qu'il a construit par des processus d'acquisition. Bon. Mais l'intelligence, ce n'est pas que ça, précisément. Donc, il faut aussi prendre des épreuves que vous appelez neutres, mais ce n'est pas si neutre que ça, Piaget, parce que précisément, ce sont des épreuves extrêmement pièges, donc elles ne sont pas neutres. Mais on peut dire qu'elles sont moins émotionnellement stimulantes. Donc, il faut prendre tout ce type d'épreuves, parce que dans la vie quotidienne, on n'a pas que des épreuves, hélas, extrêmement motivantes, extrêmement stimulantes. Et dans toutes ces situations, nos compétences intellectuelles sont éprouvées. Donc, c'est à travers la multiplicité des situations et à travers ces paradoxes. Alors, l'aspect émotionnel n'est qu'un élément. Hein. Il ne faudrait pas tout réduire, comme j'aurais pu le comprendre dans ce que vous dites, à l'aspect émotionnel. Si vous aviez uniquement cette région appliquée à un aspect émotionnel qui est activé, le sujet ne donnerait pas la réponse logique. Néanmoins, c'est un ingrédient essentiel impliqué dans les processus de prise de décision aussi abstrait, aussi peu émotionnel que la logique.
Vous faites le test à deux ans.
Vous viendrez me voir si vous voulez pour discuter après. Parce
pardon
que je pense, vous,
oui, on va clore le débat. Ah, vous pouvez descendre voir Olivier Audet si vous souhaitez. Voilà, nous vous remercions et merci à Olivier Audet.